Bonsoir mes frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons faire deux lectures pour commencer notre soirée. Matthieu chapitre 5, verset 1er. C'est le fameux sermon auquel tous les chrétiens auraient aimé assister, le fameux sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 5, c'est Jésus qui parle et il va dire des choses importantes. Toutes sont importantes. Chaque mot, chaque phrase est utile pour l'avancement du royaume de Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 1er. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je relis donc une des premières phrases d'un des premiers sermons de Jésus. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. On peut lire également le verset 9 qui va s'introduire dans la prédication. Matthieu chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. On va aller dans l'épître aux Romains. Dans l'épître aux Romains, il y a une description de ce qu'est le royaume de Dieu. Des fois, les gens me disent, mais c'est quoi le royaume de Dieu? C'est vrai que ce sont de bonnes questions. Romains 14, ouais, Romains chapitre 14, verset 17. Romains chapitre 14, verset 17. Tout un chapitre sur le respect des convictions ou des opinions des autres. Vous avez des opinions, certaines sont discutables, certaines ne servent à rien. Mais il y a quelque chose qui résume tout ce chapitre 14, qui exprime bien la pensée que nous allons partager ce soir, ce qu'est le royaume de Dieu. Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Regardez ce qui est écrit juste après. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Le manger, le boire. Dans l'Ancien Testament, vous avez remarqué combien il fallait s'abstenir de certains aliments, ne pas prendre de liqueur forte pour quelqu'un qui était consacré, parce que les liqueurs fortes représentent la joie du monde. Donc, il fallait s'abstenir de certaines choses. C'est dans les Romains, il est dit, ce n'est pas un aliment qui nous approche de Dieu. Donc, ce soir, j'aimerais vous parler du royaume des cieux. Tout à l'heure, on a chanté un cantique, un drôle de cantique. Je ne sais pas si vous avez réalisé le cantique, le deuxième qu'on a chanté. Vous vous rappelez? C'était quoi le deuxième? Ne le mettez pas encore. C'était quoi le deuxième? Triomphons. C'est une drôle de cantique, mettez-le maintenant. Non, mais je ne sais pas si vous réalisez. Vous savez, je vais vous donner un conseil que je donne régulièrement, c'est de parfois prendre le dictionnaire et de réaliser les mots que nous chantons. Vous savez, des fois, on parle de victoire. Est-ce que c'est bien d'avoir des victoires? Mais là, le triomphe, on n'est pas dans la victoire. On est dans l'apothéose. Une victoire, on le dit ça, ils ont gagné une victoire, mais ils n'ont pas gagné la guerre. Vous connaissez cette expression. Mais le triomphe, c'est l'assurance totale, c'est on a gagné la guerre, si vous voulez. C'est ça le triomphe. Une armée triomphante, c'est une armée qui est arrivée jusqu'au bout. Et Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs. C'est cette affaire-là, Paul parle de triompher. Et quand moi je chantais ce cantique, je disais, Seigneur, mais c'est ce que je veux. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Parce que gagner une victoire de temps en temps, une expérience de temps en temps, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on puisse, vous rendez compte, chanter triomphe, triomphe. Il était beau ce cantique, vous avez apprécié? Mais rechantez-le avec la compréhension des mots, et vous allez voir que là, on n'est pas avec des vaincus, on est vraiment avec des plus que vainqueurs. Il en parle, Paul, d'être plus que vainqueur. Alors justement, pour comprendre ces choses, pour vivre ces choses, il faut vraiment rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut être dans le royaume de Dieu. Vous avez vu le premier verset qu'on a lu? Vous le connaissez par cœur, vous allez me dire. Matthieu 5, vous rappelez? Vous rappelez avec moi tout à l'heure? Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il n'est pas beau ce verset? N'oubliez pas, c'est le maître des cieux qui parle. Il sait ce qu'il nous faut pour que l'on soit heureux. On a chanté plusieurs cantiques qui parlaient de la joie, du bonheur. Nicolas a insisté là-dessus et il a bien fait. Le mot heureux vient très souvent dans la parole de Dieu, très souvent. C'est un mot qui revient. Pourquoi ? Eh bien parce que Dieu veut que l'on ait du bonheur, un véritable bonheur. Et c'est intelligent de voir dans la Bible qu'est-ce que c'est qui procure du bonheur. Le monde a ses propositions, a sa grande palette d'artifices pour procurer du bonheur qui est très artificiel. Mais Jésus commence en disant « heureux les pauvres en esprit ». C'est ce qui a fait d'ailleurs que beaucoup de dénominations sont tombées dans le social. Ce matin, il y a un pasteur qui m'appelait, il me dit « voilà, on discutait, dans telles églises, ils sont tombés dans le social ». Pourquoi ? Parce qu'on a parlé des pauvres. Jésus parle des pauvres, mais ce n'est pas la pauvreté. Il n'est pas dit « heureux les pauvres matériellement ». Est-ce que vous faites la différence entre les pauvres matériellement et les pauvres en esprit ? Ce n'est pas la même chose. Les pauvres, on n'est pas heureux parce qu'on est pauvre matériellement. Ça ne veut rien dire, ça. C'est ridicule. Mais il y a des églises qui ont fait... Voilà, on va s'occuper des pauvres et on va être heureux. Heureux les pauvres en esprit, ça veut dire les gens qui spirituellement, esprit c'est spirituellement, dépendent de Dieu. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Vous pouvez être millionnaire et être pauvre en esprit. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ce n'est pas une question de bien matériel. Il faut être sérieux avec la parole. Heureux les pauvres en esprit. Il y a une version anglaise qui dit « bénis les mendiants en esprit ». Et je l'ai déjà dit, un mendiant, c'est quelqu'un qui dépend de quelqu'un d'autre pour manger même. Et lorsqu'un chrétien, tous les jours, dépend de Dieu, il est heureux. Si vous ne dépendez pas de Dieu, vous ne pouvez pas être heureux. Si vous dépendez de la religion pentecôtiste, vous êtes malheureux. Si vous dépendez de Dieu, si le Seigneur, tous les jours, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de pardon, j'ai encore été maladroit. Voilà, c'est ça être pauvre en esprit. Est-ce que Dieu donne le pardon ? Ben oui. Heureux les pauvres en esprit. Alors c'est vrai que dernièrement, j'avais fait une étude sur le bonheur. Parce que quand même, c'est un sujet, il faut en parler, il faut en parler. On n'est pas obsédé par le bonheur, mais quand même, la Bible en parle. Alors, si vous vous souvenez, j'avais pris 4 sujets qui indiquent vraiment comment être heureux. C'est important. Alors, on va les voir vite fait. Parce qu'il y a 4 comportements réels qui donnent le bonheur. Le premier, vous le vérifierez maintes fois, c'est celui de la confiance, de la foi. Je ne parle pas de la religion, je parle de la confiance. On va prendre un texte. Alors là, je vous encourage à faire l'étude de manière personnelle, Proverbe chapitre 16, verset 20, il est souvent parlé du bonheur lié à la confiance. Je dis bien à la confiance, pas à la prière. Alors c'est délicat ce que je vous dis, parce qu'en vérité, c'est très lié. Proverbe 16, verset 20, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Vous y êtes ? On a les proverbes, un petit peu plus loin, on va dans les psaumes. Vous prendrez tous les psaumes, du premier au dernier, et vous verrez toutes les fois. Là, vous allez avoir du travail, je vous le dis. Juste avant, pardon. J'ai dit après. Pardon. Quand c'est ça, c'est que j'ai besoin de repos, et que le conseil d'administration devrait me donner un mois de congé. Voilà. Vous êtes d'accord que j'ai un mois de congé ? Comment c'est beaucoup ? Qu'est-ce que vous en savez, Madame Loukouni ? Est-ce que je ne devrais pas avoir un mois de congé tous les 2 mois, non ? Psaume 1er, heureux l'homme, vous voyez ? Alors, il y a tout un tas de conseils, c'est clair, c'est l'homme qui se confie en Dieu. La fin du verset 12, le verset 12 du chapitre 2. Et on pourrait faire tous les psaumes comme ça, regardez. Psaume 2, la fin du verset, heureux qui ? Tous ceux qui se confient en lui. Je répète, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui vont à l'église et ils sont malheureux parce qu'ils ne se confient pas en Dieu. Donc, on pourrait... Alors, on n'a pas le temps, vous le comprenez bien. Parce que le sujet, en vérité, ça c'est l'introduction. Le bonheur lié à la confiance, une vraie confiance. Il y a des gens qui prient, qui vont à l'église, je le répète depuis 30 ans. Qui vont à l'église, qui lisent leur Bible, ils prennent la Sainte Cène, ils vont à l'assemblée, ils chantent, ils connaissent les cantiques par cœur, ils n'ont jamais fait confiance à Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je vous dis ?
Ça fait pitié, ça. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de gens n'ont jamais eu envie de rentrer dans une église quand ils ont vu le comportement de certains chrétiens qui n'avaient aucune confiance en Dieu. Mais la Bible, elle est catégorique. Un homme est heureux quand il a confiance. Et la confiance, c'est voilà, Dieu l'a dit, je le crois. On va pas, c'est pour vous parler du bonheur, parce que quand même, heureux les pauvres en esprit, oui. Mais si on pense que juste dépendre de Dieu, voilà, je prie, donc je dépends de Dieu, non, ça ne suffit pas. Je fais confiance à Dieu. Est-ce que vous faites confiance à Dieu? Les jeunes, là, qui avaient des enfants petits, il y a l'autre jour, je discutais avec une femme, elle me dit, monsieur, on ne veut pas d'enfant, on ne veut pas d'enfant, on ne veut pas d'enfant. Le monde, je comprenais la fin, mais laissez-moi vous dire que si vous êtes avec le Seigneur, Dieu vous protégera. Jusqu'à la fin. Vous le croyez, ça, vous ne le croyez pas? Écoutez, si vous connaissez Dieu, si vous ne le croyez pas, c'est que vous ne le connaissez pas. Dieu protège ses enfants et ses petits-enfants, et les petits-enfants de nos enfants, etc. Vous le comprenez? C'est ça, la confiance. Deuxièmement, la grâce. Alors, dans le psaume 23, vous connaissez le psaume 23? Si vous ne connaissez pas le psaume 23, c'est que c'est la première fois que vous entrez à l'église. Psaume 23, il y a, en plus de la foi, une autre dimension, verset 6. Psaume 23, verset 6, le bonheur, il est lié à quoi? À quoi est-il lié le bonheur? À la grâce. Vous savez, la foi sans la grâce de Dieu, c'est quoi la foi sans la grâce de Dieu? La foi, c'est de la religion, sans la grâce. Pour qu'il y ait le bonheur, il faut que la foi soit conjuguée à la grâce. J'ai pris pour l'autre jour l'exemple de David. David, il a tué Goliath, il a eu la foi. Est-ce qu'il a eu la foi? Est-ce que d'après vous, il y avait quand même un peu la grâce de Dieu? Dites-moi, un petit peu beaucoup? Mais bien sûr, la foi sans la grâce, c'est quelque chose qui ne marche pas ensemble. La foi marche toujours avec la grâce. C'est pour ça que vous voyez, d'un côté, il est dit, heureux ceux qui se confient, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ne nous imaginons pas un instant que la foi seule va nous donner le bonheur. La foi doit dépendre de la grâce de Dieu. Un autre point, le bonheur, psaume 24, psaume 25, le bonheur lié à la crainte de l'Éternel. C'est très important cette affaire-là. De toute façon, la vie avec Dieu est une vie d'équilibre et on ne peut pas penser que le bonheur dépendrait que de la foi. Ce n'est pas possible. La foi, la grâce, psaume 25, verset 12, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur. Donc, le bonheur lié à cette vertu supplémentaire, la crainte de l'Éternel. Et un homme qui a la crainte de l'Éternel, qui respecte les choses de Dieu, qui fait attention à plein de choses, eh bien, il a la possibilité d'avoir véritablement ce bonheur. Et quatrièmement, il doit y en avoir d'autres, je ne sais pas tous trouver sûrement, dans le psaume 65, quelque chose qu'il faut rappeler. Des fois, on n'ose pas parce qu'on a peur que ça fasse un peu, voyez, manipulation ou pression. Mais quand même, regardez, psaume 65, verset 5. « Heureux celui que tu choisis, que tu admets dans ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Le bonheur d'être dans la maison de Dieu, de servir Dieu dans sa maison. Vous avez vu, « Heureux celui que tu choisis, que tu admets dans ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison. » De la sainteté de ton temple. Est-ce que c'est important pour vous d'aller dans l'église, comme là ce soir, de dire, tiens, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de servir. Est-ce que c'est important de servir Dieu? Voilà, tiens, je peux faire ça, je veux faire une chose. Voyez, le bonheur, il n'est pas lié qu'à la foi, il n'est pas lié qu'à la grâce, il n'est pas lié qu'à la crainte, il est lié également à la bénédiction d'être dans la maison du Seigneur. C'est important pour vous, l'église? Est-ce que c'est... Voilà, voyez, vous les relirez ces textes, vous les mettrez ensemble et vous verrez que la Bible parle du bonheur, souvent elle parle du bonheur. Et je crois qu'on est dans un monde archi-grave, malade, malheureux, enténébré, qui a choisi le mal. Nous sommes positionnés et nous devons croire à ce bonheur. Il y en a un qui se chargera de nous faire croire qu'on ne peut pas être heureux. Moi, je vous dis qu'ils sont heureux, les pauvres en esprit. D'ailleurs, si vous êtes là ce soir, j'en déduis quand même que vous voulez dépendre du Seigneur, vous voulez continuer à apprendre toujours plus de Dieu. Mais que c'est dans cet équilibre que nous découvrirons les choses. Il y a des endroits où on vous mettra la pression sur la foi. Il faut être la foi, la foi, la foi, la foi. Non, ce n'est pas vrai. La foi et la grâce. La foi et la crainte, la foi et la joie de la maison du Seigneur, etc. Et puis après, on peut reprendre chacun. Mais nous avons lu que le royaume de Dieu, ce sont ceux qui sont heureux parce qu'ils sont pauvres en esprit. Le royaume des cieux est à eux. Et deuxièmement, nous avons vu que le royaume de Dieu, c'est trois vertus par le Saint-Esprit. Vous l'avez lu, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. Comment ? Par le Saint-Esprit. Donc on en revient toujours à cette notion de communion avec Dieu. Les pauvres en esprit, dans notre esprit à nous, par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, donc on voit bien que ça doit être ensemble, mais le royaume de Dieu, ce sont des vertus que j'obtiens par ma communion avec Dieu. Et je dois me poser ces questions, parce que peut-être je suis en peine, en insuffisance. Tiens, où j'en suis de la justice, de la paix et de la joie. On revient au bonheur. La justice, c'est quoi? Alors, beaucoup de chrétiens confondent... Moi, je suis peiné de... Je pense en partie que ça vient des pasteurs. Mais quand même, bon, un chrétien, s'il a soif, Dieu va l'éclairer. Il y a une très grande différence entre la justification et la pratique de la justice. C'est exactement comme la sanctification et la pratique de la sainteté. Beaucoup de gens confondent tout. Quelqu'un, il est sanctifié, c'est clair, il est sauvé. Quelqu'un, il est justifié, c'est clair, il est sauvé. Il y a la justification. Est-ce qu'il y a un juste sur la terre? Est-ce qu'il y en a un, en fait? Il n'y a aucun juste. La Bible dit, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Parce qu'on est né dans le péché. On est pécheur. Dès qu'on sort du sein de notre mère, clac, on est pécheur. C'est juridique. Donc après, on accepte Jésus-Christ, et dès que quelqu'un se repent et se convertit, il naît de nouveau, il obtient la justification. D'ailleurs, il est écrit que Jésus-Christ a été fait pour nous justice. Il est notre justice. Si on va au ciel, ce n'est pas parce qu'on est meilleur que quelqu'un d'autre, ou parce qu'on a fait des œuvres beaucoup plus que quelqu'un d'autre. Non, si on va au ciel, c'est parce qu'on est juste. Juste parce qu'on a été justifié par le sang de Jésus-Christ. Vous avez accepté Jésus-Christ ? Voilà. Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, vous pouvez faire des œuvres, tant et plus. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous convertissez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Il y a plein de chrétiens comme ça. Vous savez, ce matin, j'ai téléphoné à quelqu'un qui vient. Il vient et je savais qu'il me fallait l'appeler. Et je dis, mais pourquoi vous venez à l'église? En plus, c'est pas trop mon attitude quand même. Et je vais vous le dire. Je viens à l'église pour avoir de la chance. Et j'ai dit, mais c'est pas pour ça qu'il faut venir. Il faut venir pour le salut de votre âme. Parce que si vous venez... Vous voyez, mais le gars, il était sérieux. Je viens à l'église pour avoir de la chance dans mon foyer, dans mon travail. J'ai dit, écoutez, Dieu vous bénira, ne vous inquiétez pas. J'ai dit, il faudrait mieux quand même que vous pensiez à vous occuper de votre âme. On ne va pas dans une église pour avoir de la chance. On va dans une église parce qu'on veut connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et parce qu'on veut être un témoin utile, un vrai chrétien. Et un vrai chrétien, ce n'est pas un pentecôtiste, ce n'est pas un baptiste, ce n'est pas un protestant, ce n'est pas un catholique. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui développe certaines vertus parce qu'il est né de nouveau. Ça se fait par le Saint-Esprit. Et lorsque vous lisez, lorsque vous priez, vous ne vous en rendez peut-être pas bien compte, mais ces choses-là se développent dans votre vie. Donc, la justice, ce n'est pas la justification. Béni soit Dieu pour sa justice. Parce que ça va loin, cette affaire de la justice. De la justification. Mais si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, vous n'êtes pas juste aux yeux de Dieu. Il faut s'appliquer à pratiquer la justice. Alors, j'ai que l'embarras du choix pour vous donner des textes. On va en prendre deux ou trois. Deux ou trois. Luc 18. Dans Luc 18, il y a une parabole. C'est Jésus qui a... Luc 18. C'est Jésus qui a donné ces textes parce qu'on en a besoin. Vous comprenez bien qu'il n'a pas inventé ça. C'était important. Luc 18, il y a une parabole par rapport à deux personnes qui se trouvent dans un temple. C'est bien, deux personnes. Comme ce soir, il y a plusieurs personnes dans le temple du Seigneur. Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien, l'autre publicain. dont l'un était religieux, très religieux, et l'autre pas, ou pas beaucoup. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, regardez un peu la prière, hein. La prière verticale, quoi. Ou même comme ce publicain. » Vous voyez, il commençait à se comparer à quelqu'un. C'est Jésus qui parle. « Je jeûne deux fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Est-ce que c'était bien ça? Est-ce que c'est bien de jeûner? Est-ce que c'est bien de donner la dîme? Bien sûr, il faut le faire. On le voit plus loin. Le Seigneur le dit, il fallait le faire. Mais le gars, il pensait qu'il était juste parce qu'il faisait certaines choses. Vous voyez? Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendu dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Donc vous voyez, il y avait un qui priait, qui jeûnait, qui donnait la dîme, il faisait tout ce qu'on demande un chrétien, mais en fin de compte, il ne pratiquait pas la justice. Et c'est ce qu'on peut faire, on peut arriver à tout faire dans l'Église sans obéir. Je l'ai déjà dit, en parlant de moi-même. On peut prêcher. Est-ce qu'un gars qui prêche forcément obéit à Dieu? Mais non, vous comprenez bien. Un des textes peut-être les mieux, c'est dans Jean. Qui explique le mieux la pratique de la justice. N'oubliez pas, c'est lié à notre bonheur. Heureux les pauvres en esprit. Le royaume de Dieu, c'est la justice. La justice, alors c'est dans 1 Jean. Dans 1 Jean, il faudrait que vous méditiez 1 Jean chapitre 2 et 1 Jean chapitre 3. C'est deux chapitres que vous les méditiez pour bien comprendre, de toute façon, cette comparaison entre la pratique de la justice et la pratique du péché. Il parle à des chrétiens, n'oubliez pas. Et on va lire ce, pour commencer 1 Jean 2, 29. 1 Jean 2, 29, oui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Donc là, on voit bien, c'est ce que je veux vous enseigner, le fait de pratiquer la justice. Verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Alors là, on a l'impression qu'il y a deux possibilités. Celui qui pratique la justice et celui qui pratique le péché. Mais est-ce que ça peut arriver quand même qu'un chrétien commette un péché? Parce que c'est ça, il faut être honnête. Et oui, c'est écrit juste avant. 1 Jean chapitre 1, verset 8. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible. Pas un verset, il faut lire toute la Bible. Regardez 1 Jean chapitre 1, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, alors on a l'impression que ça contredit ce qu'on vient de lire. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Donc, si vous mettez tout ça ensemble, vous comprenez une chose. Un chrétien, il pratique la justice. Il ne vit pas dans le péché. Mais il peut lui arriver, bien sûr, comme ça nous arrive, hélas, de commettre un péché. Oui ou non ? Donc, il commet un péché, il en est malheureux, il est triste comme tout. Seigneur, je te demande pardon, j'ai eu cette mauvaise pensée, je te demande pardon. Mais il ne nourrit pas des mauvaises pensées. Il peut lui arriver, je l'ai souvent dit, il faut faire bien la différence entre un péché, je commets un mensonge, j'ai menti à mon fils. Je dis qu'il est intelligent. Je dis à Lucas, c'est pas possible, il faut que je lui demande pardon. Bon, je vais lui demander pardon. Mais ne fais pas de moi un menteur. Vous avez vu dans l'Apocalypse. Voilà, il est, vous inquiétez pas. J'ai pris un exemple. Mais il faut faire la différence entre un mensonge que je commets inopinément, que je connais involontairement et qui me rend malheureux et je vais absolument le régler. Oui, j'ai menti. Ah oui, je dis ça c'est pour blaguer. Mais même si j'ai menti, je dois aller demander pardon. Il faut faire la différence avec. Voyez ce qui est écrit dans l'Apocalypse 22, verset 15. C'est important, mes frères et sœurs, parce que le diable, d'un côté, il va essayer de nous culpabiliser à tort. Il y a la vraie culpabilité. Est-ce que la vraie culpabilité, c'est bien? Je commets un péché, je me sens coupable. Est-ce que c'est bien la bonne culpabilité? Oui, mais après, il y a la fausse culpabilité qui vient de l'ennemi. Apocalypse 22, verset 15. Il faut bien faire la différence entre un péché, j'ai pris le mensonge, j'aurais pu prendre n'importe lequel, involontaire, et puis le péché volontaire. Et là, on le voit bien dans l'Apocalypse, ce dernier avertissement qui est terrible. Apocalypse 22, verset 15. « Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Il n'est pas dit quelqu'un qui ment une fois et qui demande pardon. Quelqu'un qui aime et pratique le mensonge. Voilà, là, le gars, il n'est pas dans la justice. Mais la justice, c'est... Ça va très, très loin, cette affaire. Il faudrait toute une soirée pour expliquer ce qu'est la justice. On le voit très bien. On le voit très bien, d'ailleurs, dans le psaume 51. Vous connaissez le psaume 51? Est-ce que vous connaissez le psaume 51? Le psaume 51, moi, c'est un des psaumes qui m'a le plus touché, parce que c'est David qui réagit après que Nathan, le prophète, a été vers lui. Voilà, c'est quand même, il aurait pu le faire tuer. Et il va, d'ailleurs, le prochain fils qu'il va avoir avec Bathsheba, il va l'appeler, à part Salomon, il va l'appeler Nathan, pour vous dire combien il a été marqué par cet homme de Dieu. Mais dans le psaume 51, on voit David qui parle de cette affaire. Vous savez que David a fait quelque chose de grave. Il a commis l'adultère, puis après il a fait tuer le mari de cette femme pour faire croire, etc. etc. Donc il va attendre et il va faire semblant. Jusqu'au jour où il va être confronté à son péché, un an après. Quand il est confronté à son péché, il a l'honnêteté d'être vrai devant Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Parce qu'il a été à l'église, il faisait ce qu'il fallait. Et il dit, au verset 19, regardez bien. Il se repent. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice. Les sacrifices de justice, on pourrait les appeler, sans exagérer, des sacrifices d'obéissance. Je vis dans l'obéissance. Et je l'ai déjà dit parce qu'il faut l'expliquer, c'est pas parce que je prêche que j'obéis, que je m'applique, vous inquiétez pas. Mais c'est pas parce que je fais quelque chose que j'obéis. La justice, c'est un esprit d'obéissance. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ça qui plaît à Dieu. C'est pour ça que Dieu dit qu'en toute nation, celui qui pratique la justice, lui est agréable. Dieu aime que l'on pratique la justice. Si vous comprenez bien, je peux faire plein de choses. Prier, on l'a lu, jeûner, aller au temple, prier à haute voix, vous vous rendez compte? Moi, je prie à haute voix dans l'église. Donc, je suis meilleur que ceux qui ne prient pas à haute voix, non? Sincèrement, non? Madame Lecouni, allez. Non. Mais quand même. Vous voyez, c'est ridicule, ça. Mais on l'a entendu, ça. On l'a entendu, ça. Moi, j'ai entendu, enfin, on l'a dit, quelqu'un ici qui avait dit, quand je n'étais pas là, si vous priez à haute voix, vous n'êtes pas spirituel. Mais ça, c'est vraiment l'hypocrisie. La justice, j'obéis à Dieu. Que je prie à haute voix ou que je ne prie pas à haute voix, j'obéis à Dieu. Et David, et c'est très bien ce qu'il dit. Tu agréeras des sacrifices de justice, parce qu'on peut aller au temple, apporter une tourterelle ou un mouton si on est un peu plus riche. Le problème, il n'est pas là. Je veux vraiment obéir à Dieu. D'ailleurs, mais c'est un sujet qui revient en boucle. Rappelez Michée, le prophète Michée. C'est un homme à un moment donné de son ministère. Il veut plaire à Dieu. Il veut plaire davantage à Dieu. Et il dit, mais comment me présenterai-je devant l'Éternel? Est-ce qu'il me faut offrir des torrents, des myriades de torrents d'huile? Est-ce que j'offrirai des sacrifices, etc.? Et Dieu dit, non. On t'a fait connaître ce qui est bien. C'est que tu pratiques la justice. et pratiquer la justice, c'est un esprit d'obéissance. Et une église, elle est bénie lorsque les chrétiens vivent dans la pratique de la justice. Alors je vois que le retour n'est qu'on n'a pas le temps de développer ce sujet davantage, mais c'est ça la pratique de la justice. J'obéis à Dieu. Je vous prends un exemple. Toute la journée, j'adore Dieu. Seigneur, nous t'adorons. Je t'adore, nous t'adorons. Enfin, on conjugue comme on veut. Voilà. Est-ce que ça fait de moi un adorateur? Même si toute la journée, j'adore Dieu. Est-ce que je suis un adorateur? Oui, si. J'obéis. De la journée, de la semaine, je ne prononce pas une seule fois le verbe adorer. Je ne le prononce pas toute la semaine. Toute la semaine, j'ai obéi à Dieu. Est-ce que j'ai été un adorateur toute la semaine? Eh oui. Vous comprenez? Et quand Dieu dit qu'il recherche des adorateurs, il ne recherche pas des hypocrites qui répètent en boucle « je t'adore, je dois être un adorateur ». Non, un adorateur, c'est quelqu'un qui obéit. C'est un adorateur en esprit et en vérité. Et c'est clair, le royaume de Dieu, c'est ça. Le royaume de Dieu, c'est la pratique de la justice. Et mes frères et sœurs, posons-nous sérieusement la question, voilà, surtout que le royaume de cieux est à ces gens-là. Parce qu'on va être confondus. Parce que nous, on ne calcule pas tout. On n'a pas le temps, et puis c'est peut-être pas notre priorité, c'est pas plus mal. Mais quand Jésus dit, par exemple, dans le sermon sur la montagne, « Heureux les doux, car ils hériteront la terre. » Vous avez déjà réfléchi à ça? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que ça veut dire? Ne répondez pas tous en même temps, parce que je ne saurais pas. Mais est-ce que vous avez réfléchi? On va avoir des surprises, mes frères et sœurs. Ça sera le sujet d'une autre fois. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et c'est important, je crois, dans ce monde détruit, où beaucoup d'églises sont en vrac à cause de l'apostasie, de rééquilibrer les choses. Mais c'est quoi le royaume des cieux? C'est quoi le royaume de Dieu? C'est la sphère où Dieu agit, c'est la sphère où les gens habitent dans sa volonté. Et sa volonté, c'est ce qu'on est en train de voir. Je suis heureux parce que je développe une vraie confiance, je développe cette vie dans la grâce, je développe la crainte de l'Éternel, je développe la joie du service dans la maison du Seigneur, en fonction de ce que Dieu me montre, et puis je m'applique à pratiquer la justice et je veux la paix. La paix, c'est important. La paix, surtout que moi, la paix, je mets un point d'honneur particulier sur la paix, parce qu'il y a toujours ce verset qui me revient à l'esprit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc on sait le prix que Dieu a payé, quand même, vous êtes d'accord avec moi? Le prix que Dieu a payé, que le Seigneur a payé pour qu'on ait la paix. Il y a des choses, on voit bien, Dieu les accorde, même si on n'est pas tellement dans le coup. Il fait briller le soleil sur les bons et les méchants, etc. Donc on voit bien qu'il y a des faveurs, Dieu nous les accorde, même si on n'est pas trop dans le coup. Mais mes frères et sœurs, la paix, c'est quand même, pour moi, la paix, c'est quand même quelque chose de particulier. Parce que Jésus a subi le châtiment pour que nous ayons la paix. Il s'est appliqué à tout faire pour qu'on ait la paix. Et toute la parole de Dieu nous enseigne, de la même manière qu'on peut être enseigné sur le bonheur, on peut être très bien enseigné sur la paix. C'est pour ça que j'encourage les chrétiens à prendre la concordance, pour savoir ce qu'ils doivent vivre, ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent pratiquer les choses pour avoir cette paix. Alors il y a peut-être un verset qui vous vient à l'esprit pour avoir la paix. Il y en a peut-être plusieurs, non? Alors Philippiens chapitre 4, verset 6. L'apôtre Paul est en prison. L'apôtre Paul est à sa place. Il est en prison, mais il est à sa place. Et si vous relisez cet épître, vous allez être choqués le nombre de fois où cet homme dit sans cesse « Réjouissez-vous ». Il est en prison parce qu'il a fait le bien. Et vous le lirez, vous le soulignerez. Là, je l'ai ouvert la Bible, je suis tombé sur le verset 1er du chapitre 3. « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans les circonstances ». C'est comme ça que c'est écrit? Comment vous avez écrit? Dans le Seigneur, il faut faire la différence, attention. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Alors, comme Nicolas l'exige, nous allons lire dans Philippiens chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Attention, dans le Seigneur, c'est-à-dire on peut se réjouir dans le Seigneur. Peut-être que vous ne vous réjouissez pas parce que votre famille n'est pas à Dieu. Peut-être que vous ne vous réjouissez pas parce que votre santé ne va pas bien. Peut-être que vous ne vous réjouissez pas à vous-même parce que vous avez eu beaucoup d'échecs. mais vous pouvez vous réjouir dans le Seigneur. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Donc la pratique de la justice, c'est quoi? C'est quoi la pratique de la justice? Eh bien, je m'y applique. Je m'applique, je ne m'inquiète pas. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bon, ça, vous le croyez ou vous ne le croyez pas? Si vous le vivez, vous pratiquez la justice. Et la paix de Dieu sera votre partage. Il continue, regardez un peu plus loin, versets 8 et 9. Là, il va dans la pratique de la justice. Là, on est dans une attitude. Maintenant, on va être dans la pratique de la justice. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Parce que c'est bien que la paix de Dieu garde nos pensées, mais si je n'entretiens pas ces choses, elle va rester combien de temps la paix? Quelques secondes, oui, quelques minutes, pour ceux qui sont un peu plus costauds psychiquement. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. C'est ça la justice. Alors là, ce n'est pas la paix de Dieu. Et le Dieu de paix sera avec vous. Alors qu'est-ce que vous préférez? La paix de Dieu 5 minutes ou le Dieu de paix toujours avec vous? Les deux, bon. Mais vous comprenez la différence? Une expérience par rapport au fait, oh, je me décharge. C'est vrai que Seigneur, j'ai des fardeaux. J'ai des fardeaux en ce moment avec moi, mon conjoint, ça ne va pas trop. Si j'ai un problème dans ma santé, Seigneur, je me décharge de tout. La paix de Dieu vient, c'est indéniable. Et normalement, elle est au-dessus de mon intelligence et de mes pensées. Mais si je ne pratique pas la justice, ce que vous avez vu, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, ils sont bien à la réunion. Est-ce que ça fait du bien une réunion? Oui, ça fait du bien. Et le lendemain matin, ils ont le moral, comme on dit, dans les chaussettes. Pourquoi? Parce qu'ils ont expérimenté cette présence de Dieu, cette faveur de Dieu, cette exhortation, la paix de Dieu rentre dans leur cœur, leurs pensées, la paix étouffe ces pensées mauvaises, cette intelligence qui essaie de dominer. Oh, ça m'a fait du bien. Ah, ça m'a fait du bien ce soir. Et puis demain matin, ça va être la défaite. On va être loin de chanter « Triomphons ». C'est clair, encore une petite victoire pour la journée, peut-être. Mais on ne va pas être dans le triomphe. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mais ce sont des vertus qui ne peuvent pas venir par de l'automatisme personnel, comme on appelle de l'autosuggestion, la méthode Coué. Je suis en paix, 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 je suis en paix. Bah, écoutez, ça. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Vous savez qu'il y a des gens qui fonctionnent comme ça? Ça, on appelle ça la méthode Coué. J'ai pas de problème, j'ai pas mal aux dents, j'ai pas mal aux dents, j'ai pas mal aux dents. Mais ça marche pour ceux qui ont pas mal aux dents. Mais frères et sœurs, mais il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Il y a des bouquins qui existent sur la méthode Coué. Il y a même un livre qui est sorti dans nos assemblées, qui a été recommandé par des pasteurs, qui s'appelle La puissance de la louange, de Carotter, il s'appelle. Vous l'avez lu ce livre? Vous l'avez lu? Ouais. Eh bien, je peux vous dire que c'est exactement ce principe. Il est dans nos églises. Et je peux vous dire que ce n'est pas biblique du tout. Il faut bien faire la différence entre une joie, le dernier fruit que l'on entretient par un bon état d'esprit, quand il est dit « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père », ça c'est important. Après, je sais très bien qu'il faudrait peut-être faire une étude sur chaque vertu, sur la pratique de la justice, une étude sur la paix. La paix, c'est important de garder la paix. Est-ce qu'on peut la perdre, la paix? Est-ce que vous avez déjà perdu la paix? Vous avez vu, c'est vite fait. Qu'est-ce que c'est qui peut nous faire perdre la paix? Allez, dites-moi. Bon, là, c'est facile. L'inquiétude. Je m'inquiète de nouveau, je perds la paix. Un petit conflit avec un conjoint dans la famille, est-ce que ça peut arriver? Allez. Allez, ça arrive qu'une fois, ça m'est arrivé qu'une fois. Est-ce que ça peut arriver un dysfonctionnement dans le couple? Est-ce que ça peut arriver?
Ben oui. Il faut être honnête. L'autre jour, il y a un monsieur qui m'écoute sur Internet. Il me dit, oh, dans votre foyer, parce qu'il s'est converti en écoutant une prédication d'ici. Ça devrait être merveilleux, monsieur Gaumont. J'ai dit, oui, ça va bien, ça va bien. Il dit, avec votre femme, ça doit être le ciel sur la terre. J'ai dit, oui, vous savez, on s'entend et on s'aime, vraiment on s'aime, mais ça nous arrive de nous attraper. Monsieur Gaumont, il me dit, ça vous arrive de vous attraper avec votre épouse? Ben, je dis, ben oui, sur des petits trucs, on n'est pas des fois d'accord. Il n'arrivait pas à croire qu'on pouvait avoir des petits désaccords. J'ai dit, mais si. J'aurais jamais cru que monsieur Gaumont, j'ai dit, mais on est tous pareils. Vous savez, la Bible dit pas, j'ordonne que vous ne vous inquiétez pas, c'est pas normal que vous vous inquiétiez. Vous comprenez la différence? Ça y est, je trouvais la phrase. C'est pas normal que vous vous inquiétez. Non. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Vous faites la différence? Ça sous-entend que c'est tout à fait normal que nous nous inquiétions. Mais que nous ne devons pas le garder et que nous devons nous en décharger. Et le diable, il est capable, lui, de nous faire interpréter les choses comme des choses normales qui ne le sont pas. C'est comme ça que les gens vivent dans une fausse culpabilité. Mais mes frères et sœurs, on peut développer cette dépendance de l'esprit. Heureux les pauvres en esprit. Seigneur, j'ai besoin de toi, mais je vais relire, tiens, l'épître aux Philippiens, puisque le pasteur nous a rappelé que c'est une épître importante, qui a été écrite par un homme en prison, et qui se réjouit. Pourquoi se tient, se réjouit-il? Et vous allez voir, vous allez percevoir, par intuition même, ce que l'apôtre était en train de vivre. Imaginez-vous que ce soit votre grand-père, peut-être, vous allez comprendre davantage sa lettre, et vous allez dire, mais c'est vrai, moi aussi, je veux pratiquer ces choses. Voilà, mais je me suis fâché souvent, mais il faut que j'apprenne à demander pardon. C'est ça, pratiquer la justice. Mes frères et sœurs, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par la communion avec Dieu. Et la joie, Dieu la donne. Vous croyez que Dieu la donne? Ça fait presque ridicule de parler de la joie aujourd'hui. Et dans un monde qui n'en a plus. Est-ce qu'il y a de la joie dans le monde? Est-ce trouvé que le monde est joyeux? Mais est-ce que dans l'Église, on peut avoir une joie, cette satisfaction intérieure? Est-ce qu'on peut l'avoir? Ben oui. D'ailleurs, pour moi, je le dis devant Dieu, en toute honnêteté, je le dirai n'importe où d'ailleurs, je le pense vraiment, les seules personnes aujourd'hui sur la terre, les seules personnes qui peuvent avoir la joie, ce sont les chrétiens qui sont nés de nouveau. Vous êtes d'accord avec moi? Je le pense vraiment. Ça m'épris, hein. Je ne parle pas après des joies du monde, parce qu'il y a quand même des joies dans le monde qui peuvent nous être accordées, oui ou non, des plaisirs, dans la détente, etc. Je ne parle pas de ces joies humaines, parce que les gens confondent l'humain et le charnel souvent. Il n'y a pas à avoir honte d'être un être humain. Ce qui est humain, c'est pas un péché non plus. Vous comprenez, il y a des gens, ils se culpabilisent de tout. Il faut quand même être sérieux. Mais on peut développer ces choses par le Saint-Esprit. C'est pour ça que je voulais ce soir vous encourager et vous rappeler que le bonheur, il existe. Il existe dans la foi, dans la grâce, dans la crainte de Dieu, et dans le service et la joie d'être dans la maison du Seigneur, basée sur cette dépendance de l'Esprit qui nous pousse à développer ces vertus. Et nous verrons que nous serons des chrétiens utiles qui auront la joie sur la terre de produire du fruit. Vous avez envie de porter du fruit? D'être un chrétien utile? Qui c'est qui ne veut pas être utile, hein? Béni soit le Seigneur. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui procurent la paix. Et dans une église, c'est bien qu'on procure la paix. On va se lever, on va discuter avec l'un, avec l'autre. Hein? Tout à l'heure, attendez. Et vous n'avez pas envie de faire du bien à quelqu'un? C'est ça l'église? Dans une église, on a envie de faire du bien. Oui ou non? C'est important pour vous? Ouais. Vous allez me faire du bien en sortant. Mais c'est souvent le cas. C'est presque toujours le cas d'ailleurs. Et je vous en suis reconnaissant. Je suis content d'être votre pasteur. Merci d'être ici avec moi, avec nous. C'est vrai, hein? Est-ce qu'il faut être reconnaissant? Ah ouais, ben je vous dis merci. Merci pour vos prières, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui ont prié pour moi aujourd'hui. Je le sais. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais. On va demander au Seigneur sa grâce, hein, pour nous aider à vivre ces choses. Vous croyez que Dieu peut nous aider si on est en accord avec sa parole? Oui, il le fera. Notre Père, nous te remercions pour ton sacrifice au calvaire. Et jamais, Seigneur, nous ne te remercierons assez de ce jour où dans les cieux, tu as décidé de venir sur terre pour porter nos péchés. Jamais, Seigneur, jamais. Nous te remercions d'avoir tout subi jusqu'à la croix pour nous accorder la vie éternelle. Mais si nous pouvons te remercier pour le calvaire, il va de soi, Seigneur, que nous pouvons te remercier pour ta parole. Que serions-nous, Seigneur, sans ta parole? Et nous te remercions pour les gens qui l'ont traduite en français. Nous te remercions, Seigneur, parce qu'encore ce soir, dans ta maison, oui, nous avons pu partager ta parole. Et nous voulons vivre dans le royaume des cieux. Nous voulons vivre pour le royaume de Dieu. Nous voulons, Seigneur, être ces croyants qui seront des sources de bénédiction. Parce que nous aurons compris que, oui, ton royaume, c'est la justice, la paix et la joie par ton esprit. Aide-nous, Seigneur, c'est notre prière. Aide-nous à être ces chrétiens équilibrés. Aide-nous à comprendre la vraie et de la fausse culpabilité, afin que nous ne nous fassions pas piéger par les pièges, les ruses de l'ennemi. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment. Garde-nous sur le retour et fais que demain, dès demain, nous soyons de ces sources de bénédiction et que nous puissions, dans les mois à venir, s'il le faut, chanter vraiment qu'on peut triompher d'allégresse. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.